Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc le sujet et le titre de ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est de parler de l'amour. Et j'ai pensé, comme introduction, de partager les paroles de la chanson de Jean Ferrat, « Aimer à perdre la raison ». Parce que moi j'aime notre pays de France, elle est tellement riche dans toutes sortes de choses, pas seulement les vins et les fromages, mais aussi les écrivains, les poètes et tout ce qu'on a encore. Et donc, voilà, ça fait partie de notre patrimoine, tous ces chansonniers, poètes. Et le poète, ben souvent, il a exprimé des choses profondes au niveau de l'âme. Des fois, ça peut être une âme tourmentée, hein, qui se pose plein de questions. Des fois, c'est des choses très belles qui élèvent. Donc, voilà, voilà les paroles. Aimer à perdre la raison. Aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon et ne connaître de saison. Que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. Donc sur chaque phrase et mot, on pourrait philosopher pendant des heures, réfléchir au sens profond, et finalement des fois être peut-être à côté de la plaque, parce que le poète a ressenti d'autres choses, a voulu dire d'autres choses, mais ça fait rien. C'est une façon dont on peut chercher dans les sentiments. Donc la strophe, c'est « Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. » Toi qu'on insulte, qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée. La faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois, en elles je porte ma croix, et de leur nuit, ma nuit se fonde. » Donc voilà pour les paroles de Jean Ferrat. Et donc, l'amour, il y a toutes sortes de définitions, les gens parlent, et les poètes et les chanteurs le disent. L'autre soir encore, nous partageons avec... mon gendre irlandais, All You Need Is Love. Combien de personnes connaissent cette chanson des Beatles? Et donc, nous savons que la Bible dit Dieu est amour. On le répète dans les églises. Mais les gens à l'extérieur, souvent, c'est un sujet qui les laisse perplexes parce que de l'amour, ils ne connaissent que certains concepts humains. Comment parler de quelque chose qu'on ne connaît pas? C'est très difficile, hein? Pensez à des élèves, ils connaissent pas le sujet, ils ont pas révisé leur leçon, maintenant ils doivent écrire ou répondre à des questions qu'ils ne connaissent pas. Donc il y a des gens qui s'expriment sur un sujet qu'ils ne connaissent pas. Dieu est amour, il est la source de l'amour. Si on n'a pas la révélation de l'amour par celui qui est la source, on peut être dans toutes sortes de directions. C'est ainsi que les gens donnent des définitions à l'amour qui sont très éloignées de ce que nous croyons être le véritable amour. Et alors, on ramène Dieu à nos concepts humains. Et alors, au lieu que l'homme soit créé à l'image de Dieu, les hommes créent leur propre Dieu à leur propre image. Et donc, c'est ça qui ne va pas. Donc, nous avons choisi de regarder ce que Dieu lui-même dit au sujet de certains sujets. Et c'est justement dans la Bible qu'on trouve les définitions, qu'on trouve les exemples. Alors on va lire ensemble 1 Corinthiens 13 dans un instant, vous pouvez déjà le chercher, et on restera sur ce chapitre, on va lire le chapitre tout entier, il n'est pas très long, mais parce que c'est quelque chose qui parle, quelque chose qui doit faire partie de notre quotidien, je dis bien quotidien, comme on a peut-être l'habitude chez certains de prier « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre corps a besoin tous les jours de certaines choses », mais nous avons besoin de l'amour de Dieu qui se manifeste dans notre vie tous les jours. Même ceux qui rejettent Dieu, ils recherchent l'amour. Mais leur notion est souvent complexe et bizarre parce que on peut lui donner toutes sortes de choses qu'il n'est pas. Donc, 1 Corinthiens chapitre 13, on a eu l'occasion dans notre église d'en parler aussi lors de certaines soirées ou quand il y a eu des enseignements, se situe entre le 12, les réalités spirituelles et les dons de l'esprit, et le 14 qui est la manifestation de l'esprit de Dieu dans un culte charismatique, charismatique voulant dire par la manifestation des dons de Dieu. Et au milieu de ça, on a dans quel cadre notre vie, et vous pouvez l'étendre à tout ce que vous voulez, votre vie de couple, votre vie de famille, votre vie même en relation avec les autres dans le cadre du travail, nos relations d'église doivent être dans ce cadre de l'amour manifesté. Donc je lis, si je parle les langues des hommes, même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Les langues des hommes et même celles des anges, ça veut dire une capacité surnaturelle de pouvoir accéder à un domaine qui n'est pas justement naturel. C'est pas j'ai été dans un institut de langue, j'ai appris une langue étrangère, mais j'ai une capacité de parler des langues que je n'ai pas apprises par l'Esprit de Dieu. Donc on a l'impression que ça c'est vraiment le summum de la spiritualité. Quelqu'un qui peut faire des choses comme ça, on dit waouh, il a vraiment atteint un niveau extraordinaire. Et là la Bible nous dit, si je n'ai pas l'amour, alors je suis comme un cuivre qui résonne. Un cuivre qui résonne, c'est matière inerte, quoi, fait du bruit, mais ça sert à rien. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, toute la connaissance, don de prophétie capable de parler de la part de Dieu, d'annoncer des choses. Si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, donc être capable par une foi aussi grande de pouvoir voir des miracles se réaliser sous nos yeux, mais que je n'ai pas l'amour, alors je ne suis rien. Comprenez, il y a différents grades. Ici, il dit « je ne suis rien ». Je ne suis rien si je n'ai pas l'amour. Les gens cherchent à être valorisés, ils cherchent à être reconnus. Et bien là, la Bible dit clairement « si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». Si je distribue mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Quelqu'un a une fois dit, alors ça sert à rien. J'ai dit, si, ça sert à quelque chose, ça sert aux pauvres. Si vous donnez vos biens aux pauvres, ça sert aux pauvres. Mais il est dit ici, ça ne me sert à rien. Parce que ce n'est pas valoriser ce que je fais, c'est pour ma propre vie, c'est annulé. Ça vaut rien devant Dieu. Quelqu'un a une fois donné cette illustration, c'était dans une église où il y avait une corbeille d'offrandes qui circulait. Et donc, il y avait deux pièces de monnaie qui se ressemblaient. Une qui était d'un métal précieux, qui avait beaucoup de valeur, et une qui ressemblait, qui avait peu de valeur. Et puis, donc, la corbeille passait, un homme a mis une pièce. Et puis, après, il se rend compte, il court après la corbeille, il dit, je me suis trompé, je voulais donner l'autre pièce, celle qui avait peu de valeur. Alors, on lui a dit, non, c'est trop tard, vous l'avez donnée. Alors il a dit, mais Dieu me le comptera. Il a dit, non, il vous comptera celle que vous vouliez donner, mais en réalité, celle qui reste dans la corbeille, c'est celle que vous avez réellement donnée. Pour illustrer que ce que nous faisons qui n'est pas donné par amour, ça ne nous sert à rien. Ça ne veut pas dire que ça sert à rien, personne, mais ça ne nous sert à rien. Alors, définition de l'amour qu'on a souvent lu lors des mariages, et d'ailleurs je recommande de le lire souvent dans les mariages et encore régulièrement dans d'autres circonstances, l'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Et tout à l'heure, nous avons chanté l'amour qui n'a pas de fin. L'amour qui n'a pas de fin. Il ne meurt jamais. On parlait de notre patrimoine culturel. Eh bien, Joe Dassin n'avait pas raison quand il a dit « Je t'aimerai encore même quand l'amour sera mort » parce que l'amour ne peut pas mourir. Il ne meurt jamais. Il aurait dû lire sa Bible, ça lui aurait fait du bien. Mais là, bon, passons outre de nos poètes et chanteurs. Ben, l'amour ne meurt jamais. Au moins, vous aurez retenu que c'est faux de dire que l'amour sera mort un jour. Non, c'est pas possible. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, les choses surnaturelles, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Même lorsque nous avons quelqu'un qui est utilisé par Dieu et qui a des révélations et qui dit des paroles extraordinaires, c'est encore très peu de choses en rapport avec la réalité de Dieu, qui est tellement infinie. Donc, on connaît partiellement, prophétise partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, quand Jésus sera manifesté et que nous serons transformés totalement à son image, alors ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Il y a des choses dans notre vie où il ne faut pas regarder en arrière avec regret. Ce sont des choses qui ont fait partie de notre croissance. On n'a pas besoin d'arracher toutes les pages de notre vie passée. Des fois, il faut simplement tourner la page, dire « j'étais un enfant, j'ai agi d'une certaine façon, maintenant je grandis, j'agis d'une autre façon ». Et chez les chrétiens, c'est la même chose. On ne va pas avoir d'enfantillage à longueur de vie chrétienne. Au bout d'un moment, certaines attitudes se transforment. On se responsabilise plus, on prend plus à cœur justement que ces choses de l'amour soient manifestées dans le concret et dans le quotidien, et ne pas se défendre constamment nos droits, nos intérêts, nos « moi d'abord », etc., d'être suspicieux et tout ça. Donc, il dit « j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant ». Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire. Et là, il faut toujours préciser que quand Paul parle des miroirs, c'est pas les miroirs que nous avons actuellement. C'était un métal poli qui renvoyait une image à peu près de la personne. Donc lui, il disait, le miroir, c'est quelque chose, là, je vois à peu près mon image, mais c'est peu clair. Ce n'est pas aussi précis que ce que nous avons. Mais il dit, mais ensuite, quand ce qui est parfait sera venu, nous verrons face à face le Seigneur. Et aujourd'hui, je connais partiellement, si quelqu'un dit « je connais Dieu », il dit « oui, tu connais un peu Dieu et tu le connais d'une certaine façon ». Là, c'est la vérité, d'accord? Quand je dis « je connais Dieu », c'est ça que tu veux dire. Je le connais un peu et je le connais partiellement. Aucun d'entre nous ne peut dire « je le connais parfaitement ». C'est pas possible. C'est tout ça. Et avec ça, il faut simplement se revêtir, comme dit la Bible, d'humilité et dire « oui, j'en connais un morceau sur Dieu, j'en connais un peu, toi aussi ». Si on met les morceaux ensemble, peut-être on aura de plus en plus l'image de qui il est. Et quand je le connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu, ça sera à un moment précis. Je le connaîtrai complètement. C'est le désir normalement de chacun d'entre nous, de le connaître complètement et pas juste partiellement. Et maintenant, ces trois choses restent. Dans d'autres versions, il dit « demeure ». La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Ces trois choses demeurent. C'est la différence entre quelqu'un qui vient en visite et quelqu'un qui habite la maison. Dieu veut demeurer. On parle de, spirituellement aussi, des fois quand on a des réunions, on dit quand il s'est passé quelque chose, Dieu nous a visités. Non, Dieu veut pas nous visiter. Il veut être avec nous et demeurer. Il veut pas être un visiteur. Donc, voilà notre définition biblique. On a déjà bien avancé, hein. On s'est fait une idée précise. Maintenant, des fois, pour définir quelque chose, on peut aussi dire ce que ce n'est pas. Alors, je vous propose une deuxième partie. On dit certaines choses que l'amour n'est pas. L'amour, c'est par exemple pas de contraindre quelqu'un. On ne peut pas obliger par amour à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas dans l'amour. Même Dieu n'oblige pas. Il invite encore et encore et encore, mais il n'oblige pas. La contrainte n'est pas dans l'amour, même pour des bonnes choses. On dit, mais c'est pour son bien. Je veux insister pour son bien. Est-ce qu'il va comprendre? Non. Quand on est dans la contrainte, on sort du cadre de l'amour. L'amour n'est pas naïf. Il n'est pas naïf. C'est pas parce qu'on a dit « je crois tout, je supporte tout, je ne soupçonne pas le mal » qu'on est naïf. On voit la réalité de certaines choses. Mais l'amour nous pousse à aller au-delà et donner une chance à l'autre et vouloir l'aider. Mais on n'est pas naïf. On a donné une fausse image que l'amour, c'est être mou, c'est de tout accepter, n'importe comment. Non, non, l'amour, c'est pas mou du tout. C'est au contraire très fort. L'amour est tel que quand quelqu'un vous blesse, vous êtes capable de continuer de l'aimer malgré tout. C'est pas de la naïveté. Au contraire. On est très conscient de ce qui se passe. L'amour, ce n'est pas être dans le déni. Tout va bien, non, non, il n'y a pas de problème, etc. Non, on sait parfaitement. S'il y a un problème de relation, on sait que quelque chose coince. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? Donner la chance encore et encore et encore. On n'est pas dans le déni. On n'est pas dans la tête, dans le sable, comme les autruches, tout va bien, tout va s'arranger. Des fois, tout s'arrange pas, et des fois, il faut y travailler. Des fois, c'est pas le bon moment. Des fois, en voulant faire le forcing, allez, il faut qu'on règle cette question maintenant, tout de suite, là. Non, c'est pas le bon moment. Des fois, le tout de suite, c'est pas le bon moment du tout. Des fois, de reporter, c'est pas bien. Mais des fois, le tout de suite, c'est pas bien non plus. Des fois, on n'est pas dans la situation d'être capable d'entendre et d'accepter des reproches, par exemple. Vous savez que vous avez besoin de temps en temps que quelqu'un vous fasse des reproches. Si vous voulez progresser, qui vous dise il y a ceci, cela. Mais des fois, vous n'êtes pas prêt à le recevoir. C'est ça le problème. Il y a la transmission et le récepteur. Même si l'émission, au début, elle est très bonne, mais si le récepteur il est en mauvais état, la réception, on reçoit pas bien. Un beau sortir le téléphone hein, par la fenêtre, essayer de où est-ce qu'il y a du réseau, tout ça. Mais il faut qu'on soit en bon état. Donc, supporter tout. Supporter tout, ça veut pas dire être passif, accepter, etc. Ça veut dire être toujours capable de soutenir de nouveau la personne, la situation, d'essayer de relever. Et ce qui est la difficulté aussi avec la manifestation de l'amour, c'est qu'il y a des choses que nous n'aimons pas. N'est-ce pas vrai? Il y a des choses qu'on n'aime pas. On ne peut pas dire, il faut qu'on soit tous à marcher dans l'amour. Dieu est amour. Quand je serai rempli de l'amour de Dieu, j'aimerai tout et tout le monde. Et tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, il y a des choses que nous n'aimons pas. Et c'est ça le plus difficile. Comment aborder les choses que nous n'aimons pas? Parce que le problème, c'est que nous avons fait des déclarations évangéliques très doctrinales. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Et on dit, amen, oh, quelle belle formule, ça marche super bien ça. Mais dans la réalité, nous on n'arrive pas à l'appliquer la plupart du temps. Parce qu'il y a une confusion des genres. Il y a quelque chose qu'on n'aime pas, et à cause de ça, on le projette aussi sur la personne. Celui qui le fait, en même temps, chez nous, il y a d'habitude une attitude de rejet. On sait que c'est pas bien, on lutte contre, mais on est quand même dans cette attitude où on fait un amalgame entre le péché et le pécheur. C'est un problème social actuel et qui est un challenge pour les chrétiens. La position des chrétiens par rapport à l'homosexualité. C'est un débat de société, c'est un sujet d'une actualité vraiment concrète, mais comment avoir certaines conceptions sur le péché, ne pas le projeter sur des personnes et ne pas leur donner un sentiment de rejet. Sentiment de rejet d'autant plus grave que nous sommes les représentants de Dieu, puisqu'on se dit chrétien, voilà. Et si des gens ont l'impression que Dieu les rejette, on a tout faux, on a tout raté. Si jamais vous donnez l'impression à quelqu'un que Dieu les rejette, vous n'êtes pas en train de marcher dans l'amour. C'est pour ça que j'ai donné cet exemple maintenant, parce que il y a eu mariage pour tous, manif pour tous et tous ces débats. On n'en a pas encore fini de savoir quelle doit être notre attitude, mais on pourrait trouver d'autres exemples où on est dans la même situation. Comment montrer aux gens que nous les aimons, que Dieu les aime d'une façon inconditionnelle, qu'on aime peut-être pas certaines choses qu'ils font ou qu'ils aiment eux, mais ça c'est humain. Pour d'autres situations, on est tous différents. On a grandi autrement, élevé autrement. On a des choses qu'on préfère et d'autres qu'on préfère ne pas toucher, comme au niveau alimentaire. Ça peut être des habitudes. On a grandi d'une certaine façon. Et donc, il y a des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais là encore, comment, quand vous êtes à table, dire à quelqu'un qui vous a invité que vous n'aimez pas ce qu'il vous a fait? Il dit, alors tu aimes? Si vous dites oui, vous êtes un hypocrite et vous mentez si vous n'aimez pas. Si vous dites non, vous aurez des problèmes de relation parce que comment va-t-il réagir, est-ce qu'il va se sentir, etc. On ne veut pas être mal élevé, comme on dit. Hein. Donc, vous voyez, c'est des sujets qui ne sont pas toujours très dramatiques, mais qui nous occupent dans notre quotidien. Comment dire qu'on n'aime pas? Et je l'ai peut-être déjà donné comme illustration, mais je me rappelle toujours, il y avait un homme qui ne suivait pas sa femme, qui allait à l'église. Et donc, régulièrement, comme sa femme était très zélée, qui voulait absolument que son mari devienne chrétien, elle invitait régulièrement des pasteurs et des prédicateurs à table en se disant, ils vont le cuisiner au niveau de la Bible, et puis il va craquer. Et puis, donc, un pasteur arrive, il y a le repas, et puis alors la femme demande, alors, est-ce que vous avez aimé mon repas? Il a dit, non. ce n'est pas bon du tout, c'était même immangeable. Et le mari dit, enfin un qui dit la vérité. Donc pendant tout ce temps, ces gens n'ont... Et il paraîtrait qu'il a commencé à aller à l'église à partir du dimanche suivant. Mais non, on peut rire de ça, mais c'est des situations où on est coincé au quotidien. Comment manifester l'amour, dire les choses aux gens ou ne pas le dire? Alors, il faut être très habile hein, au niveau du choix des mots. Mais voilà, donc on peut, certaines choses qu'on n'aime pas, quelle est notre réaction quand on n'aime pas quelque chose? On a envie de le dire. C'est plus facile de dire les choses qu'on n'aime pas que celles qu'on aime. Vous avez remarqué? Dans le naturel, les gens sont orientés comme ça. Sauf si vous êtes déjà renouvelé par la parole de Dieu. Mais dans le naturel, ça jaillit beaucoup plus spontanément des choses qu'on n'aime pas. Et donc, quand on n'aime pas, alors on a tendance à critiquer. On critique et en faisant la critique, ben on se lance dans la destruction. C'est une succession d'attitudes qui font que finalement on détruit. On n'est pas en train de construire ou d'aider quelqu'un. Alors j'ai pensé aussi à cette illustration de l'Antiquité dans la mythologie. Il y avait cette hydre, ce monstre à plusieurs têtes. Et chaque fois qu'on lui coupait une tête, il y en a une qui repoussait. Pour moi, c'est un peu ça la critique. C'est un peu ça. C'est chaque fois que vous enlevez quelque chose, hop, il y a quelque chose d'autre qui veut repousser à la place. Donc nous devons maintenant vraiment être attentifs à notre bouche et est-ce que nous sommes en train de critiquer et détruire, arracher cette critique de notre vie. C'est comme une mauvaise racine qui toujours veut repousser, repousser. Vous arrachez en surface comme cette créature de la mythologie et hop, ça repousse encore. Donc ça doit être un de nos ennemis principaux à détruire dans notre vie si nous voulons justement pouvoir manifester de l'amour. Et donc, qu'est-ce qu'on a le droit de critiquer? On a le droit de critiquer des idées. On a le droit de critiquer des attitudes. On a le droit de critiquer des actions. Mais avec ce que je vous ai dit à l'instant, il est des fois difficile de critiquer ces choses sans toucher aux personnes qui ont eu ces idées, qui ont fait ces actions ou qui ont eu ces attitudes. Vous voyez? Donc, il faut trouver le moment déjà de soi-même d'être au clair. Est-ce que si je n'aime pas ce que cette personne, elle porte, ou elle mange, ou elle se comporte, ou elle je ne sais quoi encore, j'arrive tout de même à l'aimer. Les gens se souviendront, peut-être ne se souviendront peut-être plus de ce que vous avez dit, mais ils se souviendront comment ils se sont sentis quand vous l'avez dit. Des fois, on peut dire une chose très juste, très biblique, très sensée, mais la personne va se sentir blessée, rejetée, parce qu'elle ressent... Jésus disait, mes paroles sont esprit et vie. Quand il disait des mots, ça venait du plus profond de lui, et là tout était pur, tout était parfait, et tout était amour. C'est pour ça qu'il pouvait dire même les choses les plus dures, sans que les gens puissent dire, oh, je n'étais pas gentil avec moi, il m'a fait ceci, cela. Non, jamais. Les gens pouvaient ne pas accepter ce qu'il a dit, mais il ne pouvait pas lui reprocher de l'avoir fait dans un mauvais état d'esprit. Alors que pour nous, on peut dire la vérité, 100% de vérité, mais si en nous, il y a des choses qui ne sont pas claires, on va aussi transmettre ça. Donc Dieu nous aime comme nous sommes, et il faut qu'on arrive à aimer les autres comme ils sont, sans vouloir les changer. Notre premier objectif ne doit pas être de changer les gens, mais de vouloir les aimer comme ils sont. Après, Dieu nous aime comme nous sommes, il faut rejoindre, il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Il veut opérer des changements en nous parce qu'il sait que c'est bénéfique. Mais si votre interlocuteur, quel qu'il soit, même très proche, même de votre famille, conjoint, parent, enfant, etc., il sent que finalement, il ne vous aime pas réellement, mais il aime l'idée de ce que vous pourriez devenir. Vous me suivez? Alors, on n'est pas dans le vrai amour. On ne doit pas aimer quelqu'un en fonction de ce qu'il pourrait être et qui correspond mieux à mes idées et ma façon de voir les choses. Donc, faites le check, faites le test en vous-même et soyez sûr que vous ne soyez pas dans une attitude où vous produisez du rejet. Jésus a dit... Je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Jamais. Jamais. Et quand lui l'a dit, alors c'est sûr. Hein. Voilà. Troisième et dernier point, juste. On a déjà parlé de pas mal de choses, mais juste quelques applications encore à nos personnes. Il y a aussi un autre chant qu'on chante souvent dans les églises, des fois des enterrements, des fois des mariages. « Trouver ma vie dans ta présence ». Il nous est dit aussi « aimer et se sentir aimé ». L'être humain, il est fait pour ça. Il doit aimer et aussi se sentir aimé. Si on dit « non, moi, je recherche pas qu'on m'aime en retour, je suis tellement rempli d'amour, moi je donne. » Non, 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 vous n'êtes pas Superman et Woman spirituel. Vous avez aussi besoin de recevoir l'amour, de vous sentir aimé. Et avec ce que j'ai dit, vous sentir aimé pour ce que vous êtes maintenant, pas pour ce que vous allez devenir. Parce que des fois, on a dit « Dieu, il aime en nous ce qu'on va devenir ». Ce n'est pas tout à fait juste. Bien sûr, il aime certaines choses parce que lui, il voit l'avenir. Mais il nous aime pas en fonction de ce qu'on va devenir, mais tel qu'on est, comme ça, maintenant. Donc, on a besoin de se sentir aimé et on a toujours du mal à vivre avec des incertitudes quand on ne sait pas où on en est. Hein? Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais voilà. Quand vous attendez le train ou le bus, vous aimez bien savoir à quelle heure il va venir et quand va être le départ. Vous dites, aujourd'hui dans la journée, à un certain moment, je prendrai le bus. Je ne sais pas quand, et voilà, ça nous paraîtrait absurde. Vous iriez, je ne sais pas quoi, à partir de 5 heures pour être sûr de ne pas le rater le matin, vous y allez, puis vous attendez jusqu'à ce qu'il vienne pendant des heures. C'est stupide. Donc, il y a un moment où on sait, il va partir, je sais pas, 7h38. Voilà, c'est 7h38. C'est pas avant, après. Sauf s'il y a un retard. Donc, on n'aime pas l'incertitude. Cet exemple des transports, mais c'est pour d'autres choses aussi. On aime savoir où on en est. J'ai des amis aussi, qui m'ont raconté que, des fois, voilà, invité pour une certaine heure, mais on ne sait pas quand ça va commencer. Ça peut durer. Et là encore, selon votre mentalité, vous dites, ben non. On a notre expression ici en Alsace, hein. À midi, on mange. Que ça soit cuit ou non, en alsacien. Cuit ou non. Donc, avec cette incertitude, on parle de l'amour. Alors certains, pour lever toutes ces incertitudes, quel est le meilleur moyen pour les amoureux? C'est de prendre la marguerite et d'effeuiller. D'accord? Donc, voilà, elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Et puis, on fait toute la fleur pour arriver au résultat. Comme ça, l'incertitude est levée et on le sait, une bonne fois pour toutes. Et on avait commencé par aimer à en perdre la raison. Quand on lit ici, aimer un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, on voit qu'il y en a certains... Avec tout ce qu'on a dit maintenant, ça ne rentre plus dans la définition de l'amour. L'amour ne vous fait pas perdre la raison. L'amour n'est même pas la passion. La passion, c'est autre chose. La passion, ça veut dire souffrir. La compassion, c'est souffrir avec. La passion du Christ, c'est la souffrance qu'il a passée, traversée pour nous par amour. Mais la passion n'est pas quelque chose ni de beau, ni d'enviable, ni de rien du tout. Et donc, perdre la raison, la folie c'est perdre la raison, d'accord? Passionnément, non. Donc, aimer beaucoup, oui. Un peu, non, pas du tout, non plus. À la folie, on enlève aussi. Donc, il reste pas grand-chose, il reste juste quelque chose qui est épuré. Épuré. De nouveau, on arrive à cette pureté. Pureté des sentiments. Il y a aussi une autre chanson chrétienne que j'aimerais qu'on retrouve un jour et qu'on puisse chanter. Fais-nous dépasser nos sentiments humains. C'était l'amour de Dieu, l'amour divin. Fais-nous dépasser nos sentiments humains. On a vu qu'un certain nombre de choses, si je n'ai pas cet amour, je ne suis rien. Il y en a un qui est rien, c'est le diable. La Bible dit qu'il a été réduit à rien par la victoire de Jésus. Par son triomphe, il a été réduit à néant. Quand on est complètement enlevé de la présence de Dieu, qu'est-ce qui reste? Le néant. Dieu est tout et hors de lui, il n'y a rien. Il a été réduit à rien. Donc si vous êtes hors de l'amour, vous êtes dans son camp à lui, dans le néant. C'est quand même un peu angoissant, je trouve. Mais l'amour de Dieu nous tend les bras. Et donc, voilà, notre application à nos personnes, c'est transmettez l'amour. Que le récepteur soit pas en bon état, à la rigueur, ce n'est pas votre problème. La station de radio qui émet des émissions ne se pose pas la question. Est-ce que tout le monde a sa radio, son transistor, en bon état? Il va falloir que je fasse le tour de la maison pour demander à chacun, est-ce que vous recevez mes émissions? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que vous êtes content de la qualité? Non, on se pose pas toutes ces questions. On est le messager. Le facteur, quand il met la lettre dans la boîte aux lettres, il dit, alors vous êtes content? Vous avez du courrier? Est-ce que c'est... Bon, des fois, le facteur dit, ah, des factures, parce que il reconnaît les entêtes, ah, c'est les impôts ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas le problème du facteur. Lui, il doit délivrer le message. Nous devons transmettre l'amour de Dieu, délivrer le message de l'amour de Dieu inconditionnel. L'amour doit même accepter que l'autre ne le reçoive pas. Il existe des crimes passionnels, mais il n'existe pas de crime d'amour. C'est pas possible. D'accord? Quand dans les polars et romans de policiers et séries, il y a des gens qui deviennent fous parce qu'ils voulaient tellement posséder, parce qu'on peut pas dire aimer, posséder l'autre personne, que comme ils pouvaient pas faire qu'elle lui appartienne, alors il est devenu fou, meurtrier. Ça, c'est la passion. C'est ce désir de posséder qui rend fou et qui conduit à des crimes horribles. Mais l'amour, il est prêt à dire que j'aime quelqu'un, réponds pas à mon amour, je continuerai de l'aimer, peut-être d'une autre façon. Parce que si vous aimez quelqu'un, vous voulez faire votre conjoint vivre ensemble pour la vie, mais que l'amour n'est pas partagé, vous êtes quand même censé, de la part de Dieu, continuer de l'aimer comme un ami ou de tout votre cœur, mais dans un autre domaine. Donc, l'amour ne s'arrête jamais. D'accord? Et en conclusion, j'aimerais juste rappeler cette phrase qu'on a chantée tout à l'heure. À jamais, je me tiendrai dans l'amour qui n'a pas de fin. Découvrons ensemble et vivons encore cet amour agapé, le terme grec qui définit l'amour humain. C'est philéo, c'est eros, c'est il y en a plusieurs qui décrivent plusieurs aspects de l'amour, mais agapé, c'est le terme grec qui désigne l'amour qui vient de Dieu, celui qui n'a pas de fin. Donc disons-le ensemble pour conclure. À jamais je me tiendrai dans l'amour qui n'a pas de fin. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.